Chant troisième. Le dépouillement des cocons. Quand les récoltes sont honnêtes, qu'à plein baril les vergers d'oliviers dans les jarres d'argile épanchent l'huile rousse, quand, par les champs et les chemins, du ramasseur de gerbes qui erre çà et là, le grand chariot geint et cahote et heurte de toutes parts avec son front altier, nu et vigoureux comme un lutteur, quand Bacchus vient et des fouleurs conduit la farandole aux vendanges de crocs, et de la fouloir comble quand la boisson bénie sous les jambes barbouillées de moue dans l'écumante cuve échappe à pleine bonde, et diaphane sur les genêts quand les vers à soie montent en fête pour filer leur prison blonde, et que rapidement ces chenilles, artistes consommées, s'ensevelissent à milliers dans leur berceau si subtil qu'ils semblent tissus d'un rayon de soleil. Alors, en terre de Provence, il y a plus que jamais ébaudissement. Le bon muscat de Baume et le férigoulé alors se boivent à la régalade, alors on chante et l'on banquette, alors se voient garçons et filles au son du tambourin former leur onde. Moi, clairement, je suis heureuse. Sur mes clés où la bruyère s'entrelace en berceau, quel bouquet de cocons! Une ramée plus soyeuse, une plus riche récolte, je ne l'avais plus vue dans la ferme, voisine, depuis mon jeune âge, depuis l'an de Dieu que nous nous mariâmes. Pendant que le cocon se dépouille, ainsi disait Jeanne-Marie, du vieux maître Ramon, épouse honorée, mère orgueilleuse de Mireille, et les voisines et les commères, en train de rire et de détacher les cocons, étaient autour d'elle dans la magnanerie. On faisait la récolte. Elle-même, Mireille, à tout moment, aux femmes, présentait les brindilles de chêne-nain, les touffes de romarin, ou, attirées par la senteur de la montagne, si volontiers avec son écheveau, la noble chenille s'emprisonne, que, semblables à des palmes d'or, elles en étaient pleines. Sur l'autel de la bonne mère, disait donc à ses commères Jeanne-Marie, hier, femme, j'allais porter en hâte le plus beau de mes brins pour dîme. Ainsi, je fais toutes les années, car, après tout, c'est elle qui, avec largesse, commande lorsqu'il lui plaît au ver à soie de monter. Pour moi, dit Iseux du mas de l'hôte, j'ai grande peur qu'il ne m'en coûte. Le jour que tant soufflait ce grand vent d'est, de ce jour affreux qu'il vous souvienne, j'avais laissé par mes gardes tout ouverte la fenêtre de l'appartement. Tantôt, j'en ai compté 20 blanchis sur la litière. Taven, pour donner son aide, était aussi venu des beaux. Taven dit à Iseult, « En toute chose, plus que les vieillards, vous croyez, jeunes gens, de connaître. Mais il faut que l'âge nous afflige, il faut pleurer, il faut gémir. Alors, mais beaucoup trop tard, on voit et on connaît. Vous, femmes étourdies, si l'éclosion paraît belle, vite, vite, par la rue, allez bavardant. Mais vers à soi, c'est incroyable, comme ils sont beaux, venez les voir. L'envie ne reste pas en arrière. Derrière vous, à la chambre, elle monte en grommelant. Ils font plaisir à voir, te dira la voisine. Il est tout clair que tu es née coiffée. Mais sitôt que d'à côté d'elle tu auras tourné le pied, l'envieuse leur darde, une yade venimeuse qui te les brûle et te les noue. C'est le vent, direz-vous ensuite, qui me les plâtera. Je ne dis pas que cela n'y fasse, répondit Iseult. Quoi qu'il en soit, que neige ce jour-là clôt ma fenêtre. Des maléfices que l'œil lance lorsqu'il brille et danse dans la tête, répliqua Taven. Tu en doutes donc? Et sur Iseult, en même temps, elle lançait des yeux ardents. Ô insensé, qui, avec le scalpel fouillant la mort, croit savoir la vertu de l'abeille et le secret du miel. Sais-tu bien si, avant terme, ne peut un regard luisant et fixe tordre le germe de la femme, des vaches mamelues tarir les pies? Les oisillons sont ensorcelés à l'aspect seul de la chouette. au regard du serpent, du ciel tombent soudain les oies, et sous l'œil de l'homme, tu veux qu'un ver ne s'endorme pas ? Mais contre l'œil du jeune homme, lorsqu'il en jaillit l'amour, la flamme ou l'enthousiasme, où est la Vierge assez savante pour se défendre ? Quatre jouvencelles laissèrent de leurs mains échapper les cocons. « Que ce soit en juin ou en octobre, il faut sans cesse que ton aiguillon soit à l'œuvre. Eh, vieille couleuvre ! » lui crièrent-elles. « Les garçons, dis-leur d'approcher tant soit peu !»« Non !» s'écriait le gai troupeau de filles, « nous n'en voulons point, n'est-ce pas, Mireille ?»« La récolte des cocons n'a pas lieu, » répondit-elle, « tous les jours. Je sais une bouteille dans le cellier que vous allez trouver fort agréable. » Et Mireille, légère, descend dans la maison pour cacher sa rougeur. Eh bien, mes bonnes amies, je suis bien pauvre, moi, commença la fière Laure. Mais si, de n'écouter personne, j'avais résolu, quand le roi de Pamparigouste me ferait offre de sa main, ma volupté, ma délectation serait de le voir 7 ans à mes pieds agoniser d'amour. « Non, pas moi, » dit la Clémence. « Si quelque roi, par hasard, de moi devenait amoureux, il peut se faire, sans doute, surtout s'il était jeune, brillant et le plus beau de son empire, que, sans tant de caprices, je me laissasse emmener par lui dans son palais. Mais dès qu'il m'aurait mise, impératrice et souveraine, avec un manteau magnifique, à ramages d'or froid, et qu'il aurait ceint ma tête ardente d'une couronne qui éblouit de perles et d'émeraudes, je m'en viendrais, moi, la reine, au beau, mon pauvre pays. Des beaux, je ferai ma capitale. Sur le rocher où il rampe aujourd'hui, je rebâtirai notre vieux château en ruine. J'y ajouterai une tourelle qui, de sa pointe blanche, atteignit les étoiles. Et puis, quand je voudrais un peu de soulasse, au donjon de ma tourelle, sans couronne ni mantille, seul avec mon prince, j'aimerais à monter. Seul avec lui, ce serait, je vous jure, chose plaisante et délicieuse que de perdre au loin sa vue contre le parapet, coude à coude, appuyé. De voir en plein, disait Clémence, mon gai royaume de Provence, tel qu'un clos d'oranger, devant moi s'épanouir, avec sa mer bleue mollement étendue, sous ses collines et ses plaines, et les grandes barques pavoisées cinglant à pleine voile au pied du château d'If, et le ventour que laboure la foudre, le ventour qui, vénérable, élève sur les montagnes blotties au-dessous de lui sa blanche tête jusqu'aux astres, tel qu'un grand et vieux chef de pasteur, qui, entre les hêtres et les pins sauvages, à côté de son bâton, contemple son troupeau. Et le Rhône, où tant de cités, pour boire, viennent à la file, en riant et chantant, plonger leurs lèvres tout le long. Le Rhône, si fier dans ses bords, et qui, dès qu'il arrive à Avignon, consent pourtant à s'infléchir pour venir saluer Notre-Dame des Dons. Et la Durance, cette chèvre, ardente à la course, farouche, vorace, qui ronge en passant écades et argousiers. Cette fille sémillante, qui vient du puits avec sa cruche et qui répand son onde en jouant avec les gars qu'elle trouve par la route. Tout en disant ceci, Clémence, la gentille reine de Provence, quitta sa chaise et, dans la corbeille, alla vider son tablier plein. Azalaïs, brune fillette, et Violane, sa jumelle, leurs parents du château d'Estoublon conduisaient le domaine. Azalaïs, brune fillette, et Violane, sa jumelle, aux masses des micocoules venaient souvent ensemble. L'amour, ce terrible lutin, qui, aux âmes tendres et naïves, ne se plaît qu'à faire des niches, les avait enflammés pour le même jeune homme. Azalaïs leva la tête. « Jeune fille, puisque nous sommes en fête, admettons, dit-elle, qu'à mon tour je sois reine, moi. et que Marseille avec ses voiles et la Ciotat qui rit avec elle et Salon et ses amandes, Beaucaire avec son pré, tout cela m'appartiennent. Demoiselles et filles des champs, d'Arles, des Beaux, de Barbantane, dirais-je, à mon palais volez comme des oiseaux. Je veux choisir les sept plus belles, et elles pèseront dans la balance l'amour trompeur ou brûlant de désir. Toutes les sept, venez gaiement tenir conseil. N'est-ce pas décourageant, s'il est un couple qui bien s'agrée, que la moitié du temps ils ne puissent s'unir? Mais moi, Azalaïs, la reine, dans mon empire, je vous l'atteste, par quelque gêne injuste, odieuse, si jamais un couple se voit contrarié, au tribunal des sept jeunes filles, il trouvera loi de clémence. Pour joyaux ou pour or, de sa robe d'honneur qui fera pacte, à son amante qui fera insulte ou trahison, au tribunal des sept baïves, trouvera loi terrible et vengeance d'amour. Et quand pour une il se rencontre deux amants, ou au contraire, lorsqu'on voit deux jeunes filles amoureuses du même, je veux que le conseil désigne qui mieux aime, qui mieux courtise et qui est plus digne d'être aimé. Enfin, et pour compagnie aux belles demoiselles, je veux qu'il vienne sept poètes, et avec des mots qui s'accordent et dans lesquels ils exalteront le noble cœur, je veux qu'ils écrivent sur des écorces ou sur les feuilles de vigne sauvages les lois d'amour. Et tel le bon miel coule des ruches, tels vont couler leurs couplets. Jadis, sous le couvert des pins, ainsi Fanette de Ganthelme devait parler, assurément, quand son front étoilé, des Alpines et de Romanins, illuminait les collines. Ainsi la comtesse de Die, lorsqu'elle tenait cours d'amour, assurément devait parler. Mais, à la main tenant un flacon, belle comme le jour de Pâques, dans la chambre des femmes pendant ce temps-là, Mireille de nouveau était venue. « Allons, n'est-il pas temps de boire? Ça égaie le travail, » dit-elle. « Femme, tendez la coupe avant de poursuivre. » Et du flacon bien garni de Sparte, la liqueur qui réchauffe, dans la tasse, tour à tour, coula comme un fil d'or. « J'ai fait moi-même cet élixir, » dit Mireille. « Il s'élabore 40 jours sur la fenêtre afin que le soleil en adoucisse l'âcreté. Il y entre de 3 herbes de montagne et le surmou qui les baigne en garde une senteur qui embaume la poitrine. « Mais écoute, Mireille, » soudain dit l'une d'elles à celle-ci. « Vois-tu, chacune, si quelque jour elle était dans l'opulence, nous a dit ce que reine elle aurait le mieux aimé. « Toi aussi, dis vite, Mireille, dis-nous de même ton idée. « Que voulez-vous que je vous dise? Heureuse avec mes parents, contente en notre masse de crocs, il n'est rien d'autre qui me tente. « Ah !» dit alors une jouvencelle, « il est vrai, ce qui te plaît n'est ni d'or ni d'argent. Mais un matin, je me souviens, pardonne-moi si je ne le tais, Mireille, c'était un mardi. Je venais de glaner des bûchettes. Comme j'allais être à la Croix-Blanche, portant sur la hanche mon fagot de bois, je t'entrevis dans les branchages, parlant avec quelqu'un assez dégourdi. « Qui ? » crièrent-elles. « D'où était-il ? » « Avec les arbres du champ, » repartit Norade. « J'avais peine à distinguer. Mais si le paraître n'est pas trompeur, il me sembla fort reconnaître celui qui s'est tissé les paniers, ce gars de Valabrègue qu'on appelle Vincent. « Oh, la friponne, la friponne !» dirent les jeunes filles en riant aux éclats. « Elle avait envie apparemment d'un joli corbillon et elle a fait accroire au vanier qu'elle le voulait pour amant. Oh, la plus belle du terroir qui a choisi pour galant Vincent le va-nu-pied !» Et elle l'a plaisanté. Aussitôt, et sur le visage de chacune, promenant tout autour un regard oblique. Maudite soyez-vous, pécore, s'écria Tavenne. La roumèque puisse-t-elle toute vous stupéfier? Passerait le bon Dieu dans son chemin élyséen qu'elles s'en moqueraient les folles. De ce Vincent, inconsidérément, il est beau, n'est-ce pas, de rire. Et savez-vous ce qui est en lui, quelque pauvre qu'il soit? Écoutez l'oracle. Devant son tabernacle même, Dieu une fois montra miracle. Je puis vous l'affirmer, cela s'est passé de mon temps. C'était un pâtre. Toute sa vie, il l'avait passé sauvage dans l'âpre Luberon en gardant son troupeau. Enfin, de vers le cimetière, sentant son corps de fer ployer, à l'ermite de Sainte-Chaire, il voulut se confesser comme c'était son devoir. Seul, perdu dans la Valmasque depuis ses premières Pâques, dans église ou chapelle il n'était plus entré. Avait fui de sa mémoire même ses prières. De sa cabane, il monta donc à l'ermitage et, devant l'ermite, jusqu'à terre il se courba. « De quoi vous accusez-vous, mon frère ? » dit le chapelain. « Hélas ! » répondit le vieillard, « voici ce dont je m'accuse. Une fois, dans mon troupeau, une bergeronnette, qui est un oiseau ami des bergers, voletait. Par malheur, je tuai avec un caillou le pauvre hochequeux. S'il ne le fait à dessein, cet homme doit être idiot, pensa l'ermite. Et, aussitôt, brisant la confession, « Allez suspendre à cette perche, lui dit-il en étudiant son visage, votre manteau, car je vais maintenant, mon frère, vous donner la sainte absolution. » La perche que le prêtre, afin de l'éprouver, lui montrait, était un rayon de soleil qui tombait obliquement dans la chapelle. De son manteau, le bon vieux pâtre se décharge et, crédule, en l'air le jette. Et le manteau resta, suspendu au rayon lisse. « Homme de Dieu !» s'écria l'ermite. Et aussitôt, de se précipiter aux genoux du saint pâtre en pleurant à chaudes larmes. « Moi, se peut-il que je vous absolve ? Ah, que l'eau pleuve de mes yeux, et sur moi que votre main se meuve, car vous êtes, vous, un grand saint, et moi, un pécheur. » Et Tavennes termina son récit. Aux jeunes filles, elle avait coupé le rire. « Cela montre, » Laure ajouta Laurette, « cela montre, et je ne le conteste pas, qu'il ne faut point se moquer de l'habit, et qu'il peut de tout poil y avoir bonne bête. Mais, fille, revenons. Comme un grain de raisin, notre jeune maîtresse, je l'ai vue, est devenue vermeille, sitôt que de Vincent le doux nom s'étouit. Là est quelque mystère. Voyons, belle, combien de temps dura la cueillette? En étant deux, l'heure s'oublie. Avec un amant, on a toujours du loisir. Travaillez, détachez les cocons. N'est-ce point encore assez, railleuse ? Mireille répondit. Vous feriez damner les saints. Oh, mais pour vous confondre, dit-elle, plutôt que de me voir unie à un mari, je veux me cacher en un couvent de nonnes à la fleur de maison. Tralala, tralala ! Toutes les filles chantèrent ensemble. Allons, ce sera là la belle Magali. Magali, dont telle était l'horreur pour l'amoureuse extase, quand Arles, au couvent de Saint-Blaise, elle aima mieux toute vive aller s'ensevelir. Allons, Nord, toi qui chantes si bien, toi qui, quand tu le veux, émerveille Louis, chante-lui Magali. Magali qui, à l'amour, échappait par mille subterfuges. Magali qui se faisait pampre, oiseau qui vole, rayon qui brille, et qui tomba pourtant amoureuse à son tour. « Ô Magali, ma tante aimée !» commença Nora, et la maisonnée au travail redoubla de gaieté de cœur, et telle, quand d'une cigale bruit la chanson d'été, toutes les autres en cœur reprennent, telle les jeunes filles au refrain partaient toutes en cœur. « Ô Magali, ma tante aimée !» Mets la tête à la fenêtre, écoute un peu cette aubade de tambourins et de violons. Le ciel est là-haut plein d'étoiles, le vent est tombé, mais les étoiles pâliront en te voyant. Pas plus que du murmure des branches de ton aubade je fais cas, mais je m'en vais dans la mer blonde me faire anguille du rocher. Ô Magali, si tu te fais le poisson de l'onde, moi le pêcheur je me ferai, je te pêcherai. Ô, mais si tu te fais pêcheur, quand tu jetteras tes verveux, je me ferai l'oiseau qui vole, je m'envolerai dans les landes. Ô Magali, si tu te fais l'oiseau de l'air, je me ferai, moi, le chasseur, je te chasserai. Ô perdreau, au bec fin, si tu viens tendre tes lacets, je me ferai, moi, l'herbe fleurie, et je me cacherai dans les prés vastes. Ô Magali, si tu te fais la marguerite, je me ferai, moi, l'eau limpide, je t'arroserai. Si tu te fais l'onde limpide, je me ferai, moi, le grand nuage, et promptement m'en irai ainsi en Amérique, là-bas, bien loin. Ô Magali, si tu t'en vas aux lointaines Indes, je me ferai, moi, le vent de mer, je te porterai. Si tu te fais le vent marin, je fuirai d'un autre côté. Je me ferai l'échappée ardente du grand soleil qui fond la glace. Ô Magali, si tu te fais le rayonnement du soleil, je me ferai, moi, le ver lézard, et je te boirai. Si tu te rends la salamandre qui se cache dans le hallier, je me rendrai, moi, la lune pleine qui éclaire les sorciers dans la nuit. Ô Magali, si tu te fais lune sereine, je me ferai, moi, belle brume, je t'envelopperai. Mais si la brume m'enveloppe, pour cela tu ne me tiendras pas. Moi, belle rose virginale, je m'épanouirai dans le buisson. Ô Magali, si tu te fais la rose belle, je me ferai, moi, le papillon, je te baiserai. Va, poursuivant, cours, cours, jamais, jamais tu ne m'atteindras. Moi, de l'écorce d'un grand chêne, je me vêtirai dans la forêt sombre. Ô Magali, si tu te fais l'arbre des mornes, je me ferai, moi, la touffe de lierre, je t'embrasserai. Si tu veux me prendre à bras le corps, tu ne saisiras qu'un vieux chêne. Je me ferai blanche nonnette du monastère du grand Saint-Blaise. Ô Magali, si tu te fais nonnette blanche, moi, prêtre, je confesserai et t'entendrai. Là, les femmes tressaillirent. Les cocons roux tombèrent des mains. Et elle criait à Nord. Ô, dis ensuite ce que fit étant non-nain Magali, qui déjà, pauvrette, s'est faite chêne et fleur aussi, lune, soleil et nuages, herbe, oiseaux et poissons. De la chanson, reprit Nord, je vais vous chanter ce qui reste. Nous en étions, s'il m'en souvient, à l'endroit où elle dit que dans le cloître elle va se jeter, et où l'ardent chasseur répond qu'il y entrera comme confesseur. Et, de nouveau, oyez l'obstacle qu'elle oppose. Si du couvent tu passes les portes, tu trouveras toutes les nonnes autour de moi errantes, car en sueur tu me verras. Ô Magali, si tu te fais la pauvre morte, à donc je me ferai la terre, là je t'aurai. Maintenant je commence à croire que tu ne me parles pas en riant. Voilà mon annelet de verre pour souvenir beau jouvenceau. Ô Magali, tu me fais du bien, mais dès qu'elles t'ont vu, ô Magali, vois les étoiles comme elles ont pâli. Nord se tait. Nul ne disait mot. Tellement bien Nord chantait que les autres, en même temps, d'un penchement de front, l'accompagnaient, sympathique, comme les touffes de souchet qui, pendantes et dociles, se laissent aller ensemble au courant d'une fontaine. « Oh, le beau temps qu'il fait dehors !» ajouta Nord en achevant. Mais déjà les faucheurs, à l'eau du vivier, lavent la gomme de leurs faux. « Cueille-nous, Mireille, quelques pommes de la Saint-Jean, et, avec un fromage frais, nous irons, nous, goûter sous les micocouliers. » Thank you.